Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, les versets 25 et 26. Genèse, chapitre 4, versets 25 et 26. Le texte dit « Adam connut encore sa femme, et l'enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. » Un de mes formateurs me disait toujours, quand tu lis la parole de Dieu, tu dois bien lire les lignes, mais tu dois aussi demander que le Saint-Esprit t'apprenne à lire ce qu'il y a entre les lignes. On peut lire tout simplement le texte et continuer notre lecture, comme on peut aussi être interpellé par ces quelques mots et avoir cette vision, cette compréhension que tout ce qui est donné par Dieu dans sa parole a un sens bien précis et il nous invite à méditer et à réfléchir. Quand on lit dans ce texte, on voit comme si l'histoire de l'humanité, elle continue tout simplement. Adam et Ève avaient eu deux enfants, Caïn et Abel. Malheureusement, Caïn a tué Abel, on connaît l'histoire. Et après quoi, c'est comme si le cours de la vie reprend. Et du coup, il y a Seth qui arrive, dont le nom veut dire substitut. En effet, pour Ève, c'était celui qui venait prendre la place d'Abel. Il venait à nouveau recombler le cœur du couple. Mais à la suite, Seth aussi aura un fils. Donc, on voit les années s'enchaîner les unes après les autres. Et finalement, Seth devient père et son fils s'appelera Enoch. Mais le texte nous dit, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et en lisant ça, on peut déduire, on peut faire cette considération que depuis la mort d'Abel, plus personne avait invoqué le nom de Dieu. Abel était mort à cause de la jalousie de Caïn, puisque Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel. À la mort d'Abel, l'humanité avait arrêté de se rapprocher de Dieu. Où était Adam? Où était Ève? Quelle était leur relation avec Dieu? Pourtant, ils ont été les premiers à avoir cette grâce, d'avoir cette relation personnelle et je dirais privilégiée avec Dieu, non? La parole de Dieu nous dit que le soir, Dieu venait pour discuter avec eux. Mais à cause de leur péché, ils ont été mis dehors et ils ont continué à vivre avec quelque chose dans leur cœur qui leur empêchait de s'approcher de Dieu, malheureusement. Et peut-être que la situation de la mort d'Abel a encore aigri les cœurs, mais plus personne élevait sa voix pour louer Dieu sur la terre. Ça ne sera pas la première fois, parce que si vous lisez bien dans la parole de Dieu, il y a bien des moments où, malheureusement, pas de voix se lève pour prier. Quand on pense à Noé, c'était le seul qui était attaché à Dieu par rapport à toute l'humanité. N'est-ce pas? Et combien d'autres situations on trouve où des chrétiens se sont retrouvés seuls dans un pays où personne connaissait Dieu? Dans des situations, dans des circonstances, alors parfois nous, quand on est seul dans une situation, on a le sentiment d'être les seuls au monde à avoir vécu ça, mais je voudrais vous dire ce soir, arrêtez de penser à ça, ce n'est pas la réalité, il y a pire. Et le pire, c'est que personne élevait sa voix vers Dieu jusqu'au moment où Enoch commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le nom d'Enoch veut dire « faible et mortel ». Il fallait quelqu'un qui reconnaisse sa faiblesse et qui reconnaisse aussi qu'il était un simple mortel pour finalement revenir à Dieu. Tant que l'être humain se sent au-dessus des règles, au-dessus des, je dirais, des choses qui peuvent impacter sa vie, il ne pense pas du tout à Dieu. Mais Enoch, lui, il va voir les choses autrement. Il recommença à invoquer le nom de l'Éternel. Et pourtant, Dieu fait preuve de patience et d'amour, car il attend qu'un homme reconnaisse d'être faible et mortel. Est-ce qu'on reconnaît d'être faible et mortel? Si nous sommes là, ce n'est pas parce qu'on est les plus forts. C'est parce qu'on a besoin du Seigneur. Parce qu'on reconnaît que tout autre humain, malgré tout ce qu'il peut s'imaginer, en réalité, il est fragile. Il n'est pas grand-chose. Enoch, finalement, il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous sommes en prière et que nous reconnaissons Dieu comme celui qui peut toutes choses et qui accomplit toutes choses. Comme Enoch, nous nous approchons de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tout homme et toute femme s'approchent de lui. Ésaïe 56, versets 5 à 7. Ésaïe 56, versets 5 à 7. Il nous dit ceci, « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui préserveront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Est-ce qu'on est prêt à faire le voyage avec le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on est prêt à dire, « Seigneur, on est prêt à te suivre. Ramène-nous, Seigneur, dans, non physiquement, hein, qu'on se comprenne bien, mais dans l'esprit, Seigneur, aide-nous à nous élever vers toi. Seigneur, à ne pas laisser les choses de ce monde nous retenir, nous accabler, nous écraser, Seigneur, nous mettons notre espérance en toi. Et le texte dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. La volonté de Dieu, c'est que nous repartions de ce lieu, non pas avec nos fardeaux, nos valises, mais avec un cœur réjoui de dire, j'ai pu déposer mon fardeau auprès du Seigneur. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Si Dieu nous invite à cela, si Dieu aspire à que les hommes prient, c'est parce qu'il aime cette relation avec nous. Qui a besoin ce soir de secours de la part de Dieu ? Qui a besoin ce soir d'abandonner peut-être toute la tristesse qu'il y a dans son cœur et même la peine qu'il peut avoir dans son cœur. Vous savez, il y a des choses parfois qui nous peinent, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Ça a pris tellement de place dans notre cœur. On se lève tous les matins et c'est là. Et le soir, quand on s'endort, on se dit, mais si seulement demain matin, ça avait pu disparaître, n'est-ce pas? Et après, la moindre chose nous rappelle et rebelote et reparti dans la même souffrance. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas dans cette attitude, mais que nous puissions nous dire, Seigneur, je m'abandonne à toi et je t'apporte mes fardeaux. La prière est commandée et recommandée. En Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Je dirais même que ce n'est pas un hobby, mais une priorité, la prière, n'est-ce pas? Ayez recours à l'Éternel et à son appui, dit 1 Chroniques chapitre 16, verset 11, cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. N'oublions pas que la prière produit force et nous permet de rester debout. Vous avez vu, il y a quelques jours, il y avait du vent. C'est vrai ou pas? Ça allait. C'était léger. Mais imaginez de vous trouver face à un vent vraiment qui décoiffe. Alors, il y en a qui se disent, moi, ça ne va pas me décoiffer grand-chose. Hein? Mais vous savez, ce vent devant lequel vous ne pouvez pas résister, on l'a vu parfois à la télévision, ces personnes qui sont obligées à s'accrocher à quelque chose parce que le vent les emporte. C'est trop fort, trop puissant. Humainement, on ne peut pas faire face à une telle situation. Et la parole de Dieu nous dit que parfois dans nos vies, il y a des tempêtes qui soufflent. Et on a du mal à rester debout face à la tempête. Face à l'épreuve, on a du mal. Et c'est humain et c'est normal. Vous savez, moi j'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle est une source inépuisable. Et combien ça m'a interpellé ce moment où Jésus, dans le jardin de Gethsémané, dit le texte, il fut éprouvé jusqu'à la mort. Vous imaginez ? Jésus, le Fils de Dieu, éprouvé jusqu'à la mort. À tel point que Dieu envoya un ange pour le soutenir. Si Jésus a eu besoin de soutien, c'est parce que le vent soufflait. C'était une tempête. Et quand des tempêtes touchent à notre vie, frères et sœurs, nous ne devons pas nous sentir comme si, quelque part, on avait fait quelque chose de mal. On est éprouvé, nous aussi, et à l'image de Christ, nous pouvons demander le secours de Dieu. Nous pouvons demander le soutien de Dieu. Il n'est pas question pour nous de nous cacher. Il y a des tempêtes qui ont soufflé dans ma vie. Mais à chaque fois, j'ai vu la main du Seigneur me sortir de la tempête. Et vouloir donner une image de quelqu'un qui n'a jamais vécu de tempête parce qu'il est tellement spirituel, qui passe au-dessus des nuages, ça serait un grand mensonge. C'est comme me dire, mais je suis mieux que Jésus. Vous savez, il y a parfois des gens qui ne veulent jamais partager leurs difficultés avec qui que ce soit, parce qu'autrement, ça serait une image pas bonne. C'est une image, peut-être un reste que nous avons humain, charnel. Mais Jésus nous dit de partager nos difficultés. Non ? Les uns les autres. Vous connaissez tous les textes les uns les autres ? Qu'est-ce qu'il dit dans les uns les autres ? Encouragez-vous. Il est question de se soutenir, prier les uns. Pourquoi prier si tout le monde va bien ? Je n'ai pas besoin de prier pour vous si vous allez bien. Non ? Seigneur, ils vont tellement bien, je n'ai plus rien à te demander. Mais la réalité, c'est que le Seigneur sait qu'il y a des tempêtes. Et je ne crois pas avoir besoin ce soir de quelconque don spirituel pour dire qu'il y a encore des tempêtes dans les cœurs. C'est normal. Par contre, nous pouvons dire avec confiance que là où la tempête souffle, Christ est présent. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, le verset 36, il dira « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » L'ennemi voudrait souffler à tel point de nous coucher. Mais chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous pouvons tenir et en demandant au Seigneur sa force, et cela, c'est par la prière, en tout temps, en toutes circonstances, en toute situation. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit, le verset le plus court de la Bible ? Quel est le verset le plus court de la Bible ? 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Wow! Pas besoin d'ajouter plus. C'est une invitation. Il nous pousse à la prière. La prière continuellement pour chercher la face de Dieu. 2 Chroniques chapitre 14, verset 3 dit « Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. » Il ordonna de rechercher l'Éternel. Le Seigneur encore ce soir, frères et sœurs, certes nous invite, mais je dirais que c'est une invitation solennelle. Vous savez, il y a une différence entre une invitation et une invitation solennelle. Une invitation, tu peux dire oui ou non. Une invitation solennelle, tu es invité, mais tu n'as pas le droit de dire non. Parce que c'est urgent, c'est important. Tu ne peux pas passer à côté. Est-ce que vous croyez que Dieu voit quand on est absent devant son trône? Oui. Parfois, nous, on se dit dans la masse, ça se voit pas. Hein? Si je suis là ou je suis pas là, c'est pas grave, personne ne le voit. Et vous savez, l'ennemi essaie de nous amener dans cette réflexion en pensant que si on n'est pas présent en réunion, personne ne s'en apercevra. Mais je voudrais vous dire, Dieu le voit. Il y a quelque part, on laisse à l'ennemi une possibilité encore de souffler dans notre vie. Mais le Seigneur nous donne un ordre. Recherche l'Éternel. En Deutéronome chapitre 4, verset 29, il est écrit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Le psaume 105 dit « Chercher continuellement sa face. » Je dirais que pour terminer, la prière faite avec foi est la preuve qu'on espère en Dieu. Et le psaume 62, verset 6, dit ceci, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Sommes-nous encore aujourd'hui conscients que le Seigneur attend que des hommes et des femmes invoquent son nom? Sommes-nous conscients qu'aujourd'hui, cette réunion de prière n'est pas une simple réunion? C'est un moment privilégié. C'est un moment de grâce. C'est un moment de miséricorde. C'est un moment où aussi on est là non seulement pour nous, mais probablement davantage pour ceux qui comptent sur nos prières, sur ceux qui n'ont pas pu être là. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pu être là. À cause de la maladie, à cause de bien des situations. Mais nous sommes là et nous sommes heureux d'être là. Parce que nous savons que Dieu entend nos prières. Amen. Nous sommes là parce que nous savons ce que nous sommes, faibles et mortels, mais nous savons aussi ce que Dieu est. Il est l'Éternel et c'est lui qui agit au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Alors inclinons nos têtes et amenons nos cœurs au Seigneur encore ce soir pour dire oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Seigneur, il y a des moments dans ta parole, nous lisons que tu cherchais un homme, je cherche un homme.